Je vais peut-être vous décevoir, mais j'ai rien de nouveau à vous révéler ce matin. Je vais faire que révéler ce que Dieu nous a laissé dans sa parole, en essayant de vous encourager à la méditer suite au survol que nous allons faire ce matin sur le sujet dont nous allons parler. Alors j'ai eu le privilège de commencer cette série, je ne sais pas si vous vous souvenez, début de l'été, et j'avais parlé de l'éternité, Dieu éternel. Et j'ai le privilège de clore la série, en ce début d'automne, sur un des attributs de Dieu. Et avant de vous dire lequel c'est, est-ce que vous vous souvenez de tous les attributs que nous avons déjà abordés ? Sainteté de Dieu, la fidélité de Dieu, l'éternité de Dieu, l'immuabilité de Dieu, la... omniprésence, peut-être, moi je ne devais pas être là, mais ouais, omniprésence. Bah, c'est pour ça que je vous pose la question, j'étais en vacances et à un moment donné, je n'ai pas tout suivi. La fidélité de Dieu, la sainteté de Dieu. Et ce matin, nous allons parler d'un omni, non pas d'un ovni, mais d'un omni. À votre avis, de quel omni s'agit-il ? Il n'y en a pas beaucoup, donc... omniscience, c'est ça. Ce matin, nous allons parler de l'omniscience. Alors, je vous propose de se remémorer ce que les attributs de Dieu sont, puisque là, on clôt notre série, ça, c'est bien de se souvenir de ce qu'on a dit. Ensuite, de voir ce que dit les Écritures sur l'omniscience de Dieu. Connaît-il vraiment tout ? Et pour terminer, de voir, en prenant un psaume bien connu, les implications et les conséquences de l'omniscience de Dieu dans notre vie. Est-ce que le programme vous convient-il ? Oui, ben j'espère, parce que j'en ai pas d'autres à vous proposer ce matin. L'omniscience de Dieu. Alors le message de ce matin s'adresse à vous tous qui êtes présents ici dans ce lieu. Car Dieu savait qui serait présent ce matin dans cette église de Saumur. Alors mettez de côté les personnes qui ne sont pas là et à qui vous pouvez penser. Et concentrez-vous sur la parole de Dieu pour vous, parce que Dieu savait que vous seriez là, et donc Dieu sait ce dont vous avez besoin. Et j'espère surtout que ce message pourra vous encourager dans votre vie, comme il a pu aussi m'encourager en le méditant et en le préparant. Alors la première... voilà. Alors, il va peut-être avoir des petits bugs parce que moi, j'ai fait mon diaporama sous Windows, Microsoft. Et là, on a un Mac. Et des fois, eh bien, les choses se passent pas très bien. Non. Non problème. Alors, rappelons-nous ce que nous avions dit au début. Pour connaître le caractère de Dieu, il nous fallait connaître ses attributs. Nous pourrions dire que les attributs de Dieu sont les différents aspects du caractère de Dieu. Et nous avions vu qu'il ne s'agissait pas d'éléments qui s'ajoutaient à l'être de Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'est pas la somme de ses attributs. Et les attributs aussi ne sont pas une composante de l'être de Dieu qui serait extérieure à l'essence de Dieu, c'est-à-dire à sa nature. En fait, en disant les attributs de Dieu, nous disons ce qu'il est, ce qu'est son être dans sa totalité. Chaque attribut de Dieu le caractérise. Et donc chaque attribut caractérise tout l'être de Dieu. En fait, Dieu est l'ensemble de ses attributs. Comme je suis compté par le temps, et qu'un schéma vaut mieux que 1000 mots, vous allez mieux comprendre avec ces 3 schémas suivants que j'ai trouvés dans l'ouvrage théologique systématique de Wayne Grudem. Je ne sais pas si vous avez ce livre avec vous, un livre sympathique de 1500 pages, mais qui est très intéressant et qui nous apprend beaucoup de choses. Alors du coup, voilà, schéma 1, ce que je viens de dire en schéma. Dieu n'est pas la somme de ses attributs. Vous voyez, ce n'est pas un agglomérat d'attributs et ça représenterait Dieu. Schéma 2, les attributs ne sont pas extérieurs à l'essence de Dieu. Il n'y aurait pas Dieu et tout autour de lui ses attributs. Non. Et le schéma 3, ce qu'on appelle le schéma du prisme, explique, tant bien que mal, qui est Dieu selon ses attributs. Alors je vais vous lire la citation, et après je vous vulgariserai et expliquerai. Le prisme est l'illustration classique que les théologiens ont employée pour expliquer la simplicité divine. Simplicité, ça ne veut pas dire que Dieu est simplet, entre guillemets. Simplicité, ça veut dire qu'il est un, unique, qu'il est, c'est une entité simple, seule, unique. Dieu en lui-même est une lumière pure, à gauche, et incréée, dans laquelle tout est divin et identique à son essence, à laquelle rien ne peut être ajouté, soustrait ou modifié. Il est cependant impossible pour l'homme de voir cette lumière ou de la comprendre à l'état pur. 1 Timothée 6,16 dit, en parlant de Dieu, c'est une lumière inaccessible que nous l'homme n'a vue ni ne peut voir. De l'autre côté du prisme, nous retrouvons la réalité créée dans laquelle Dieu se révèle à nous et où il est perçu par ses créatures avec des attributs distincts. De notre perspective, Dieu semble avoir des parties et être complexe. Mais rappelons-nous toujours que nous ne le percevons pas de manière pure, puisque son essence ne peut être comprise que par lui seul. Nous connaissons Dieu seulement tel qu'il se rend perceptible à nous. La révélation de Dieu à l'homme est ajustée à notre finitude. Gardons-nous cependant d'imposer quelque finitude à Dieu, lui-même comme s'il était contingent, changeant ou dépendant. La simplicité divine est la seule façon de maintenir intacte la distinction créateur-créature. Fin de citation. Alors pour vulgariser un peu ce qu'on vient de lire, ou le dire en d'autres termes, pour notre compréhension et donc notre perspective, Dieu s'est révélé à nous différemment car nous avons été créés, contrairement à Dieu qui est incréé. Et comme nous l'avons vu dans son premier attribut, Dieu est éternel, il a toujours existé. Et donc nous qui sommes des êtres finis, contrairement à Dieu qui lui est infini, ne nous permet pas de saisir et de comprendre qui il est vraiment. Mais Dieu dans sa grâce s'est quand même révélé à travers sa parole, en expliquant, en montrant ses différents attributs qui le composent. Alors le danger serait de faire rentrer Dieu dans notre conception finie, d'être humain, comme je l'ai dit, créé et fini, puisque nous, nous avons un commencement, nous avons été créés par Dieu. Contrairement à Dieu, qui est un être infini et non créé. Alors oui, ce sont des notions qui nous dépassent, moi le premier, en tant qu'être humain limité, avec une intelligence limitée. Mais pas de panique, nous aurons l'éternité pour apprendre qui est Dieu et comment il fonctionne. L'intérêt de connaître et de méditer sur les attributs de Dieu, comme nous l'avions vu, cela nous permet de progresser dans notre foi et dans notre cheminement avec lui. Vous en conviendrez que mieux on connaît une personne et mieux on peut répondre à ses besoins et à ses attentes. Alors maintenant, en deuxième partie, Voyons ce que dit les Écritures sur l'omniscience de Dieu. Une définition de l'omniscience. L'omniscience se définit comme un état de connaissance absolue, le fait de tout savoir. En d'autres termes, rien n'échappe à Dieu. C'est un des attributs de Dieu qui signifie que Dieu sait et connaît tout. Psaume 33, verset 13. Le Seigneur regarde du ciel, il voit tous les humains du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre, lui qui façonne leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. L'Écriture enseigne l'omniscience divine, c'est-à-dire que Dieu se connaît lui-même et connaît toutes les choses de la création de manière exhaustive et de toute éternité. C'est une caractéristique de la seigneurie de Dieu sur toute chose. La connaissance que Dieu a de toute chose couvre aussi le passé, le présent et l'avenir. C'est pour ça que Dieu savait qui serait là aujourd'hui pour écouter sa parole et qui ne serait pas là. L'Écriture affirme que la connaissance que Dieu a de lui-même et du monde est exhaustive, ce qui veut dire que rien ne lui échappe. Pensons une seconde, si Dieu n'était pas omniscient, il ne pourrait pas être souverain sur toute chose, sur toute la terre et sur nos vies, sur tous les événements qui peuvent se passer dans le monde. Mais c'est parce que Dieu connaît toute chose et sait toute chose qu'il peut être souverain sur tout. Alors, la diapo suivante. Nous voyons le psaume 144, verset 5. « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. » Jean 21, verset 17. Pierre répondit à Jésus, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Un autre passage, je pense que je l'ai mis, voilà. Dans Hébreux 4, versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà, nous voyons déjà ce que dit l'Écriture sur l'omniscience de Dieu, que Dieu sait tout, connaît tout, que tout est à nu devant lui, que rien, en fait, ne lui est caché. La diapo suivante, dans 1 Jean 3, verset 20, il nous est dit, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. » Dieu sait tout des cieux étoilés, dans Genèse 15, verset 5. Et dans Psaume 147, verset 4, il est dit « Celui qui détermine le nombre des étoiles et à chacune d'elles, il donne un nom. » Ésaïe 40, verset 26, « Regardez le ciel, là-haut, voyez qui a créé les étoiles, qui les fait sortir au complet comme une armée à la parade. Il les embauche toutes par leur nom, sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à l'appel. » Dieu sait aussi tous les moindres détails du monde naturel. Pour ceux qui prennent des notes, psaume 50, versets 10 et 11, psaume 56, verset 9, et aussi Matthieu 10, verset 30, un verset qu'on connaît bien, où Dieu dit qu'il connaît le moindre cheveu que nous avons sur notre tête. Alors j'ai voulu un peu creuser la question sur le nombre d'étoiles. Est-ce que cela vous intéresse? Oui? Bon, les matheux vont être contents. Les moins matheux vont être un peu moins contents. Alors bon, j'ai regardé bien sûr sur Internet, hein. J'ai essayé de voir à peu près ce qu'en pensaient les scientifiques, et il est sorti que, à la grosse louche, hein, grosse louche, il y aurait environ entre 200 et 300 sextillions d'étoiles. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce qu'un sextillon? Là, les matheux vont être contents. Un sextillon est l'entier naturel qui vaut 10 puissance 36. Donc 10 et vous rajoutez 36 zéros. Soit 1000 quintillards. Voilà, ça c'est pour votre connaissance générale. Parce qu'en fait, notre galaxie comprendrait à peu près 300 milliards d'étoiles. Mais d'après aussi les scientifiques, il y aurait au moins 300 milliards de galaxies dans notre univers. Quand on se pose et on réfléchit, la première chose qui m'est venue, c'est quel Dieu merveilleux et incroyable nous avons. Parce que non seulement il a créé toutes ces choses, mais en plus, on l'a lu, il leur a donné un nom. C'est extraordinaire. On voit que l'intelligence de Dieu est infinie, et que ces voies ne sont pas les nôtres, et que nous sommes justement des êtres finis. Allez, je vous dis aussi, j'ai cherché pour connaître le nombre de cheveux que nous pouvons avoir sur nos têtes. Alors c'est vrai que sur certains, c'est plus facile à compter que sur d'autres. Moi, Dieu m'a donné beaucoup de cheveux, Dieu merci. Alors, à peu près entre 100 et 170 000 cheveux sur nos têtes. Et Dieu les connaît. Vous multipliez ça par le nombre d'habitants sur la Terre et vous obtenez aussi un chiffre astronomique. Tout ça pour dire combien Dieu est puissant, combien Dieu est grand et que Dieu sait toutes choses jusqu'au moindre détail de notre vie. Il connaît le moindre détail de ta vie. Et Dieu sait tout. Pourquoi ? Parce qu'il est le Seigneur de tout. Il a créé les cieux et la terre. Il connaît son propre plan pour son histoire. Éphésiens 1, verset 11. Il exerce aussi un contrôle sur toute chose. Romains 11, verset 36. Ses jugements concernant ce qui est vrai ont une autorité ultime. Jean 17, verset 17. Et il est présent partout pour observer ce qui se passe. Et ça, on va le voir un peu plus tard dans le psaume 139. En fait, le terme théologique d'omniscience fait référence, comme on l'a déjà dit, à la connaissance exhaustive que Dieu a de lui-même et de la création. La diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, son omniscience comprend la connaissance, comme on l'a dit, du passé, du présent, et de l'avenir. Sa connaissance du passé et du présent ressort clairement dans le texte ci-dessous. L'Écriture est tout aussi claire en ce qui concerne la connaissance que Dieu a de l'avenir. Ésaïe 46, versets 9 et 10. Souvenez-vous du lointain passé, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et dès le temps jadis, ce qui n'est pas encore fait. Je dis, mes projets se réaliseront et je ferai tout ce que je désire. Amen. Dieu est souverain. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Quand Dieu nous donne des promesses dans sa parole, on peut être sûr qu'elles se réaliseront. Diapo suivante. Voilà. Les Écritures mentionnent aussi que Dieu connaît en détail les événements qui surviennent sur terre, même ceux qui ne sont pas encore arrivés. Donc là, je vous ai mis quelques versets afin de pouvoir les noter et vous vous rendrez compte que c'est Dieu qui à chaque fois parle sur des choses qui vont se passer et qui se réalise. Il y en a plein d'autres, bien sûr, mais c'est les principaux que l'on peut donner. Il y a l'exemple qui me vient en tête lorsque Jésus, lorsqu'il a préparé sa venue à Jérusalem et qu'il a dit à ses disciples, « Allez, vous trouverez un ânon attaché. » Et il leur a dit, si le maître demande, non, si la personne demande ou le propriétaire demande, « Pourquoi le voulez-vous ?» Vous répondrez, « Parce que le maître en a besoin. » Et les choses se sont passées comme Jésus l'avait dit à ses disciples. On voit que Jésus aussi, qui est Dieu, sait tout et connaît tout. Et qu'il peut prévoir l'avenir, les choses futures. Alors maintenant, regardons le psaume 139. Un psaume merveilleux que nous allons lire et qui va nous montrer combien Dieu est présent à chaque instant, à chaque jour de notre vie. Psaume 139. Au chef de cœur, psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi, tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi? Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels, eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent, et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Ce psaume souligne combien Dieu nous connaît profondément. Où que l'on soit. Nous l'avons lu, qu'on soit dans les cieux, qu'on soit dans le séjour des morts, qu'on soit au loin, Dieu est là et toujours là. Et sa présence, en fait, ne nous quitte jamais. Il est dit, verset 6, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Et c'est vrai, c'est ce que nous avons vu, et c'est ce qu'on peut se dire et conclure lorsque déjà on réfléchit rien qu'au nombre d'étoiles, que on est tout petit comparé à notre si grand Dieu. Versets 7 à 12, il nous est dit que la connaissance que Dieu a de nous nous suit partout et ce, où que l'on aille. Comme je l'ai dit, qu'on soit au ciel ou dans la tombe, aux extrémités de la terre ou dans les ténèbres, Dieu est là. Versets 13 à 16, David dit qu'il nous connaissait déjà au moment de nous former dans le ventre de notre mère. Et il connaissait déjà même à ce moment-là chacune de nos journées que nous allions passer sur cette terre. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça tellement rassurant de savoir que Dieu est au contrôle de toutes choses, que Dieu est souverain jusqu'au point de savoir le nombre de jours que nous vivrons sur cette terre, savoir que c'est Dieu qui nous a conçus, savoir que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais que nous avons un créateur, un architecte qui nous a créés dans le sein de notre mère. Alors peut-être que ce matin, tu penses être le fruit du hasard parce que la façon dont tu as été conçu montre que c'était le fruit du hasard, mais la parole de Dieu dit bien le contraire. Le Seigneur sait, et Dieu nous connaissait avant même la création de toutes choses. Dieu savait à quelle époque nous allions naître, Dieu savait dans quelle ville nous allions vivre, Dieu savait avec qui nous allions interagir. Dieu est un Dieu merveilleux. Donc, il n'y a aucun hasard. Comme je le disais ce matin, si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Mais Dieu l'a voulu et Dieu le savait. Versets 17 et 18. Cette doctrine devrait faire peur aux personnes corrompues. Mais pour le psalmiste, la connaissance que Dieu a de nous est merveilleuse et bonne. Versets 23 à 24, les deux derniers. David prie que Dieu use de cette connaissance pour le conduire à la repentance et au pardon des péchés. Savoir que Dieu sait toutes choses doit aussi nous pousser à nous remettre en question chaque jour et à demander à Dieu de nous guider, de nous diriger, savoir si nous sommes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Alors en résumé, je crois que j'ai mis un diapo. Voilà. En résumé, l'omniscience de Dieu est une bénédiction inestimable pour le peuple de Dieu. L'omniscience de Dieu est une condamnation pour ceux et celles qui lui tournent le dos. Et l'omniscience de Dieu est la preuve de l'amour de Dieu. Comme nous l'avons vu dans l'Écriture, Dieu sachant tout, cela nous permet d'être calmes et non inquiets, car Dieu sait avant même que nous lui demandions ce dont nous avons besoin. C'est rassurant de savoir que Dieu jugera avec équité tous les êtres humains, les justes et les injustes, car rien n'est caché à ses yeux. Aucune pensée, aucun événement dans ce monde, dans notre vie, aucun propos, tout sera dévoilé au jour du jugement dernier. L'omniscience de Dieu montre aux hommes combien Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Romains 5, verset 8, il est dit « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce qui veut dire que Dieu m'a aimé, vous a aimé, connaissant tous les péchés que nous commettrions avant d'être sauvés et tous les péchés que nous commettons encore aujourd'hui. Quel amour il s'est donné pour des pécheurs. La parole de Dieu nous dit qu'il a pris tous les péchés du monde. Tous les péchés du monde. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Aussi terribles qu'ils paraissent aux yeux des hommes, Dieu est capable de nous pardonner. Aussi terribles les choses qu'on a pu faire dans notre vie, et Dieu les connaît, Dieu est capable de nous pardonner. Pourquoi ? Parce que Jésus a pris à la croix tous les péchés du monde. Et donc, il a pris le mien, il a pris les vôtres. Afin de faire justice à Dieu et de nous donner la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux ce que Dieu a fait pour nous, pour l'être humain ? Son omniscience nous prouve combien l'amour de Dieu est incommensurable. Tout ce que Dieu a fait ou va faire, il le fait en toute connaissance de cause. Dieu a envoyé son Fils Jésus alors qu'il savait très bien qu'on ne le cherchait pas, que nous étions perdus, pécheurs. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est souverain sur votre vie, il est souverain sur ma vie, il est souverain sur les événements du monde. Comme nous l'avons lu, Dieu va accomplir tous ses projets. Et l'un de ses projets, c'est de venir nous chercher pour que nous soyons pour l'éternité auprès de lui. Amen. Dieu vient nous chercher, Dieu vient chercher son Église. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, il sait de quoi nous sommes faits, il connaît notre faiblesse, il connaît nos doutes, il connaît nos pensées les moins avouables, il connaît les péchés que l'on commet. Mais Dieu sait aussi que si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Quel Dieu grand et merveilleux, oui, nous avons. Rien n'est laissé au hasard, mais tout est entre ses mains. Pour nous qui sommes nés de nouveau, l'omniscience de Dieu est une assurance que tout ce que nous vivons est sous son contrôle. C'est une assurance parce que nous savons que nous avons été justifiés en Christ, que Christ est notre justice. Et nous savons que Jésus-Christ vient non pas pour nous juger ou nous condamner, mais vient pour nous prendre avec lui pour l'éternité. L'omniscience de Dieu, pour ceux qui ne veulent pas de Dieu, qui ont choisi de vivre sans Dieu, est par contre un jugement et une condamnation. Jésus viendra. Et à ce moment-là, pour les injustes, pour ceux qui ne veulent pas de Dieu, ça sera un jour de colère, ça sera un jour terrible pour eux, parce que Dieu rendra justice selon les actes qu'ils auront faits. Alors oui, le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Mais comme Marlène l'a dit, j'avais aussi cette pensée-là. La porte n'est pas fermée. Nous vivons encore sous la grâce de Dieu. Et encore aujourd'hui, ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu, ceux et celles qui veulent s'approcher de Dieu, ont encore cette grâce de pouvoir rentrer dans la porte du salut. Non pas par leurs œuvres, non pas par ce qu'ils auraient fait ou pas, mais simplement parce que Dieu vous a aimé, parce que Dieu vous connaissait avant même que vous soyez conçu, et Dieu savait tout sur votre vie. La parole de Dieu dit qu'il est venu chercher des bons, des justes, des gens bien. Non, il y en a deux qui font non, merci. Il y en a deux qui suivent. Non, Dieu est venu chercher des pécheurs que je suis. Quelle grâce merveilleuse de savoir cela. Alors oui, la porte de l'arche, nous avons cette image dans l'Ancien Testament du déluge. Tant que la porte de l'arche était ouverte, n'importe qui pouvait rentrer dans l'arche. N'importe qui pouvait y venir et être à l'abri et être sauvé du déluge. Et cette image est encore valable aujourd'hui. N'importe qui peut encore entrer par la porte du salut. Cette porte, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Nul ne vient au Père, nul ne vient à Dieu que par lui. Et ce n'est pas par vos forces, ce n'est pas par vos moyens, mais c'est par sa grâce simplement. Et cerise sur le gâteau, la foi est donnée par Dieu. Ce n'est même pas nous qui la cherchons. C'est Dieu qui nous donne la foi, qui nous donne cette capacité un jour de saisir et de comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Alors oui, l'omniscience de Dieu est pour moi une assurance et pour moi un rocher afin sur lequel je peux m'appuyer parce que je sais que quoi qu'il se passe dans ma vie, même si je ne le comprends pas forcément, Dieu est au contrôle et Dieu sait. Et rien que de savoir ça, ça me réconforte et l'inquiétude s'en va. Je ne dis pas que c'est facile à vivre, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'on passe peut-être avec le sourire, mais au moins on a cette assurance que Dieu est au contrôle et que Dieu sait tout. Voilà, je vous invite à prier.